Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'un des impôts les plus controversés, les plus discutés de notre pays, l'impôt sur la fortune. En 2015, 343 942 personnes étaient concernées. Cet impôt est à l'image du système français, complexe et friable. Tant il est aisé d'en réduire l'impact quand on connaît les chemins de l'optimisation fiscale. Tout l'enjeu, par ailleurs, est qu'il soit accepté par une majorité. Si on peut parler par exemple d'un consensus fiscal pendant la période économique prospère des Trente Glorieuses, celui-ci vole en éclats dès les premiers soubresauts de la crise. Et c'est durant cette période que l'on commence en France à imaginer un impôt auquel seraient assujettis les citoyens les plus fortunés. Bien, mais que désigne-t-on sous le terme de fortune? Jusqu'à quelle hauteur faut-il taxer la richesse provenant du travail et du capital sans mettre à mal la machine économique? D'ailleurs, qui va continuer de payer l'ISF après la réforme Macron qui le remplace par un impôt sur la fortune immobilière? À qui va profiter cette baisse globale estimée à 4 milliards d'euros? L'ISF et l'esprit de l'ISF sont-ils en voie de disparition? L'impôt sur la fortune, totem pour certains, tabou pour d'autres. C'est donc cette histoire mouvementée que nous allons vous raconter et qui reste aujourd'hui encore au centre de bien des débats et bien des passions. Notre invité aujourd'hui, Thomas Porcher, économiste et auteur du Traité d'économie hérétique paru en mars 2018 chez Fayard. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzeau qui est allé à la Fête de l'Humanité où elle a sondé les participants sur cette question de l'impôt sur la fortune, autrement dit l'ISF et le peuple. Reportage diffusé en 2017, mais aujourd'hui les interrogations restent les mêmes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
François Fillon.
Oui, je suis un patriote, je suis un souverainiste. Je préfère supprimer l'ISF plutôt que de voir l'économie française sans capitaux passer sous contrôle étranger.
Emmanuel Macron.
L'ISF, qu'est-ce que ça taxe? Ça taxe l'enrichissement pendant le cycle de vie et donc le capital productif et non productif. Moi, je supprimerai la part qui taxe le capital productif.
Alain Juppé.
Il suffit d'aller faire un petit tour à Bruxelles, à Genève, et y trouver des Français qui ont été conduits à quitter la France à cause d'une fiscalité sur les revenus de l'épargne qui est confiscatoire.
Nicolas Sarkozy.
La France est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. C'est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. Allez dire, monsieur Hollande, qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, que nous avons fait des cadeaux aux riches, c'est une calomnie.
Comme les bourgeons au printemps, quand une élection présidentielle arrive, on voit réapparaître dans les programmes des candidats la proposition de supprimer ou de réformer l'impôt sur la fortune. En juin 2016, alors qu'il était encore ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste et pas encore candidat, Emmanuel Macron appelait une réforme de l'ISF, notamment du statut d'imposition du capital productif. L'ambitieux est alors recadré froidement par le Premier ministre Manuel Valls, oubliant que lui-même avait appelé de ses voeux la suppression de l'ISF qu'il qualifiait d'inutile car peu rentable et surtout source d'injustice lors de la primaire de 2011. Le sujet est de nouveau débattu à l'occasion des primaires de la droite. Et c'est le candidat défendant sa suppression, François Fillon, qui est sorti victorieux de cette élection. Mais en réalité, voilà plus de 20 ans que la droite hésite à supprimer cet impôt. Au cours du second mandat de Jacques Chirac, pourtant prudent sur ce type de sujet, le débat sur l'ISF fait de nouveau les gros titres. Dans la presse, on lit par exemple les témoignages d'habitants de l'île de Ré qui, après l'explosion des taxes foncières, sont désormais assujettis à l'ISF, impôt qu'ils ne peuvent payer sans vendre leurs biens. Face à la bronca des parlementaires, le président lâche du lest. En 2006, la majorité invente l'idée d'un bouclier fiscal et plafonne l'imposition d'un contribuable à 60% de ses revenus. Un an plus tard, Nicolas Sarkozy fait de cette idée une mesure phare de son programme avec un taux encore plus bas, 50%. Quelques semaines après son élection, la nouvelle ministre de l'économie, Christine Lagarde, explique à la tribune de l'Assemblée la philosophie de cette mesure.
On ne peut pas, en effet, d'un côté encourager le travail et de l'autre surtaxer l'argent gagné. Cette barre des 50% est bien évidemment lourde de symboles. Elle instaure un véritable partenariat juste et équitable entre l'individu et l'État. 50-50, eh bien c'est la formule de notre contrat fiscal. Il suffit d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, de se poster Gare du Nord un vendredi soir à l'arrivée de l'Eurostar ou du Thalys pour comprendre que tous ces banquiers français partis travailler à la cité, que tous ces exilés fiscaux réfugiés en Belgique n'ont qu'une envie, c'est rentrer vivre en France.
Boucliers, exilés, réfugiés fiscaux, la guerre a-t-elle été déclarée aux plus riches, en tout cas dans le discours ? Les mots de l'imaginaire guerrier ponctuent souvent les débats autour de la question fiscale. Dès le 1er janvier 2008, la mesure du bouclier est effective et permet aux plus fortunés qui ont fait le choix de rester en France d'obtenir de l'État de jolis chèques. Le dispositif imaginé par la majorité n'est alors pas une réduction de la somme à payer, mais un remboursement après paiement. Et c'est ainsi qu'en juillet 2010, on apprend sur le site de Mediapart que le fisc a versé en mars 2008 la somme de 30 millions d'euros au titre du bouclier fiscal à Liliane Bettencourt. En pleine crise financière, le chèque du fisc français à la première fortune de France laisse des traces dans l'opinion. En 2011, la droite décide d'y mettre fin. Un an plus tard, la question du système fiscal et de la solidarité des plus riches est de nouveau au cœur des débats. En janvier, le candidat socialiste François Hollande promet un taux d'imposition de 75% pour la part des revenus qui dépasse 1 million d'euros par an. En mai, il est élu, mais le Conseil constitutionnel retoque sa proposition. Une nouvelle mouture est alors proposée, votée puis mise en place. Mais au début de l'année 2015, la mesure disparaît. Alors quoi ? Est-il si difficile d'imaginer une révolution fiscale ? Et 40 ans plus tôt, qui sont ceux qui ont imaginé pouvoir taxer les plus riches ? Quelles étaient les raisons évoquées ? Quelles sont les forces politiques qui ont combattu ou soutenu cette mesure ? L'histoire de l'impôt sur la fortune prend sa source pendant les dernières années des Trente Glorieuses. Au lendemain de mai 68 et pendant cette période de ralentissement de la croissance économique, la question de la répartition des richesses retrouve de l'écho au sein des milieux politiques. Oh, sans être la pierre angulaire des réflexions, la question fiscale réapparaît peu à peu dans les demandes des syndicats et des partis. Dans la version initiale du programme commun du Parti Socialiste et Communiste, on propose d'abord un alourdissement des droits de succession avant d'acter l'idée de la création d'un impôt sur la fortune, comme le mentionne le programme « Change la vie » de François Mitterrand. Mais la volonté d'imposer les plus riches ne se limite pas aux militants de gauche. Dans le sillage de la crise pétrolière de 1974, en effet, et de ses premières conséquences économiques en France, le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, demande un rapport sur cette question. L'étude conclut à la nécessité d'accroître la part de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales pour réduire les inégalités sociales. Peu à peu, l'idée fait son chemin. On parle alors d'impôt sur le capital. Dans les pages du journal Le Monde, en 1976, on peut lire un long entretien de l'universitaire Jacques Gros-Claude, auteur de l'ouvrage intitulé « L'impôt sur la fortune ». Dans cette interview, il met en avant les avantages d'un tel dispositif qui permettrait notamment, et selon lui, un meilleur recensement des richesses ainsi que la mise au jour de dissimulation de revenus. De plus, cet impôt permettrait de pousser les détenteurs d'un capital à affecter ses ressources à des fins productives. Quand l'article est publié, 59% des Français se disent favorables à cet impôt, mais le gouvernement hésite encore à l'introduire. Pendant l'automne 76, lors de la discussion du projet de loi rectificative des finances, des députés, notamment André Fanton et l'URPR, expriment le souhait d'une imposition annuelle sur les fortunes des personnes physiques, dont les revenus sont supérieurs à 2 millions de francs. Le Premier ministre, Raymond Barre, s'y oppose. Quelques semaines plus tard, lors de son discours programmatique de Blois, le Premier ministre annonce la demande d'une étude sur l'impôt concernant le capital et sur lequel le Parlement devra ensuite statuer. Le lendemain de cette intervention, le leader communiste Georges Marchais réagit.
La France profonde, je la regardais hier soir à la télévision avec Barre. La France profonde, elle a chaleureusement applaudi quand il a dit pas d'impôt sur la fortune. La France profonde.
C'était la France en manteau de fourrure.
C'est-à-dire qu'ils veulent réaliser chez nous ce que Callaghan a fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire il a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs de 7%. Il y a l'affirmation ici, ouverte, n'est-ce pas, que le pouvoir d'achat des travailleurs sera abaissé. De tout le monde. Ben oui, de tout le monde. Mais nous, on veut abaisser, c'est le pouvoir d'achat des riches, vous voyez. C'est ça qui nous différencie. Pour augmenter celui des pauvres.
Au sein de la majorité également, le choix du Premier ministre est également critiqué par certains. En mars 1978, lors d'une conférence de presse, Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical, propose son propre projet d'impôt sur la fortune.
Les gens déclareront leur fortune. Il n'y a pas d'inquisition fiscale. C'est une mesure de justice qui existe dans tous les pays modernes d'Europe ou d'Amérique, qui est une mesure bénéfique à l'économie, qui est une mesure profonde du point de vue moral, et qui aidera à créer cette solidarité nécessaire à la mobilisation des Français pour la renaissance de notre pays dans le bouleversement économique mondial que nous connaissons et dont nous souffrons.
Désormais, le sujet n'est plus seulement débattu dans des cercles d'initiés, mais il devient une arlésienne au sein des partis politiques. En revanche, il est un sujet récurrent dans les pages de la presse. Bien. Mais qu'entend-on par fortune? Quel patrimoine devrait être taxé? L'immobilier, les parts dans les entreprises, l'or, les œuvres d'art? Et puis, comment évaluer ces fortunes? Les journalistes frappent alors aux portes des personnes potentiellement concernées et récoltent leurs réactions et leurs craintes. Beaucoup annoncent déjà payer trop d'impôts, mais ils oublient souvent d'annoncer l'étendue de leur richesse. En janvier 1979, le rapport d'études demandé par le Premier ministre, tant attendu, est enfin dévoilé. Voilà comment Roger Gigel, bien dans son style délayé, résume, si je puis dire, la conférence de presse des trois députés en charge de l'étude.
Touchez pas au Grisby. Pendant longtemps, ça a été la règle en France quand un ministre des Finances ou un gouvernement s'avisait d'imaginer l'impôt sur la fortune. Taxer les revenus parfaitement connus parce que déclarer ceux des salariés, par exemple, ça c'est facile, comme de taxer la consommation, mais imposer les fortunes a toujours paru présenter beaucoup plus de risques pour l'économie du pays, pour ses investissements en tout cas, que de véritables profits pour la collectivité. Le rapport de messieurs Ventejol, Blot et Méraud, qui vient d'être remis à l'Assemblée nationale pour qu'elle en délibère, présente comme proposition centrale qu'au lieu de se lancer dans l'aventure d'un impôt annuel sur le capital, qui susciterait donc beaucoup de difficultés pour un rendement dérisoire, sans réellement corriger les inégalités entre les patrimoines, eh bien il serait plus juste de réformer le régime des droits de succession. Les petites et moyennes successions pourraient être exonérées, pour les autres, les taux de taxation seraient élargis de 5 à 40% pour une part d'héritage dépassant par exemple 2 millions. Quant aux très grosses fortunes, elles seraient frappées d'une surtaxe lorsque l'héritier a déjà lui-même un gros patrimoine.
Quelques semaines plus tard, malgré la crainte des rapporteurs, le congrès de l'UDF vote l'idée de la taxation du patrimoine supérieur au sein des économistes aussi. Le sujet fait débat entre les différentes écoles de pensée. En 1979, le cercle des nouveaux économistes de tendance ultralibérale, emmené notamment par Henri Lepage, préconise la baisse massive des impôts pour éviter la récolte qui gronderait chez les contribuables. Inspiré de l'école américaine, dont le pape est Arthur Laffer, certains économistes français reprennent ces chiffres et diffusent ces analyses qui se résument à cette formule « trop d'impôts tue l'impôt ». Un slogan que reprend en cœur la droite française face aux candidats socialistes et communistes. Si le programme commun n'est plus les deux anciens partis frères, ont gardé chacun dans leur proposition cette mesure d'impôt sur la fortune. Et le 10 mai 1981, c'est François Mitterrand qui est élu président de la République. Dans les jours qui suivent, on demande aux douaniers une attention particulière, car une rumeur court selon laquelle certains esprits chagrins auraient décidé de quitter le pays avec leur argent, craignant que la mise en place d'un impôt sur la fortune emporte leur richesse. Fantasme ou réalité, les remous boursiers, les annonces de départ ne font pas reculer le gouvernement. Le 8 juillet 1981, après une large victoire aux élections législatives, Pierre Mauroy, nouveau Premier ministre français, annonce dans sa déclaration de politique générale ses objectifs en matière fiscale.
En élisant François Mitterrand, les Françaises et les Français ont choisi de substituer à une société dure aux plus démunis, une société juste et équitable. Mais pour donner plus aux uns, il faut donner moins aux autres. Il n'y aura pas de miracle. Et il n'existe pas de cagnotte où prélever les revenus versés aux uns sans toucher à ceux des autres.
Le ministre en charge de cette mesure phare du gouvernement, du programme, est le ministre délégué au budget, Laurent Fabius. Il annonce d'abord que la taxation des grandes fortunes ne fera pas l'objet d'une loi, mais d'une mesure intégrée au budget qui pourra donc être renouvelée ou modifiée chaque année. Durant tout l'été, Laurent Fabius consulte et avance ses premiers pions. En septembre, le ministre commence à faire le tour des plateaux pour annoncer les différentes mesures fiscales envisagées, dont celles concernant les grandes fortunes. Alors, qui sera touché par cet impôt ?
Laurent Fabius, vous êtes pour nous d'abord et surtout l'homme de la feuille d'impôt. Vous êtes le ministre chargé du budget.
Malheureusement, il y a les recettes.
Mais qu'est-ce que vous frappez sur les hauts revenus, sur les cas d'une façon générale ?
Je crois simplement qu'il y a beaucoup d'injustice fiscale et qu'il faut essayer d'aller vers plus de justice fiscale.
Alors, pour l'impôt sur la fortune ?
Alors, l'impôt sur la fortune, c'est autre chose. Il touchera un peu moins de 2% des Français, environ 200 000 foyers. Quel est le principe ? Le principe, c'est que jusqu'à 3 millions de nouveaux francs, 300 millions d'anciens francs, on n'a rien à déclarer, on n'a pas d'impôt à payer. Au-delà de 300 millions de francs anciens, avec un bonus supplémentaire pour l'outil de travail, 500 millions de francs dans ce cas-là, là on a un impôt de 0,5%, 1% ou 1,5% au maximum. Ce sont des taux très raisonnables qui se situent à peu près dans la fourchette des pays qui ont cet impôt. Je vous surprendrai peut-être en vous disant que la Suisse a un impôt sur la fortune qui est d'ailleurs plus élevé que le nôtre, que l'Allemagne a un impôt sur la fortune aussi.
Le ministre tente de rassurer, mais le patronat commence à manifester son désaccord, notamment au sujet de la prise en compte de l'outil de travail. Les exploitants agricoles, comme les vignerons, s'inquiètent, par exemple, de la taxation de leur propriété où ils exploitent leurs vignobles. Les antiquaires montent également au créneau face aux mesures présentées par le gouvernement et, notamment, l'obligation du paiement par chèque de chaque œuvre dont le montant serait supérieur à 5000 francs. Les antiquaires y voient l'établissement d'un fichier des collectionneurs. Pendant l'étude du projet de loi à l'Assemblée nationale, ces différents arguments sont entendus. Le 28 octobre, les députés adoptent l'article 2 qui institue un impôt annuel sur les grandes fortunes supérieur à 3 millions de francs. Le lendemain, un amendement exonère les œuvres d'art. Le 30 octobre, on décide la même chose pour les biens professionnels dans la limite de 2 millions supplémentaires. Après un passage au Sénat, le 30 décembre 1981, la loi est promulguée. L'impôt sur les grandes fortunes est né. À la fin de cette année-là, près de 76% des Français l'approuvent. Et à ce moment-là, 104 000 contribuables l'ont payé. Cet impôt a fait entrer dans les caisses de l'État près de 3 milliards et 700 millions de francs. Mais que fera la droite quand elle reviendra au pouvoir ?
When it's stretched out, I'm stressed out. Some may write it left.
say no, no, no. No, no, no.
Christian Charnelet.
Oui, Jacques Chirac.
Autre question.
Plusieurs téléspectateurs vous demandent, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous supprimeriez l'impôt sur la fortune? Cette question revient très souvent.
Vous savez, je suis partisan d'une imposition sur le capital. Elle existe dans tous les pays et elle existe notamment en France avec l'impôt foncier, avec l'impôt sur les successions, avec l'impôt sur les plus-values. Ce que je condamne dans l'impôt sur les grandes fortunes tel qu'il existe actuellement, ce n'est pas son principe, c'est ses modalités d'application. D'abord, c'est un impôt qui rapporte très peu et qui coûte très cher à mettre en œuvre. Ensuite, c'est un impôt qui présente un danger considérable à mes yeux, qui est l'inquisition. Et l'inquisition, dans ce domaine, a pour conséquence la fuite des capitaux, le refus de les investir avec les créations d'emplois que l'on perd à cette occasion. Et je suis donc contre toute forme d'inquisition. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis favorable à repenser l'ensemble de l'imposition sur le capital et à supprimer l'impôt sur les grandes fortunes.
Ce 28 janvier 1985, sur le plateau de l'heure de vérité, le président du RPR ne laisse aucun doute sur ses intentions en cas de victoire lors des prochaines élections législatives. 4 ans après l'élection de François Mitterrand et le vote de l'impôt sur les grandes fortunes, les partisans de la droite française rêvent du grand soir fiscal et d'un retour sur les mesures du pouvoir socialiste. La peur fiscale est devenue l'un des thèmes récurrents des argumentaires de l'opposition. En 1984, le député RPR Philippe Auberger publie un pamphlet contre la politique du gouvernement intitulé « L'allergie fiscale » où il appelle à la révolte en ces mots « contribuables de tous les pays, unissons-nous ». Jacques Chirac en signe la préface, indiquant que, je le cite, « le poids des prélèvements obligatoires menace la liberté des Français et constitue pour notre économie un pesant et dangereux handicap ». L'argument n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est le capitalisme financier et la fin de l'État qui ont vent en poupe. Quelques semaines avant l'élection du président français, en bon disciple de l'école de Chicago de Milton Friedman, son homologue américain Ronald Reagan déclarait dans son discours d'investiture « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème ». La droite, homme politique et intellectuel, s'inspire alors de la pensée américaine. En 1985, dans les pages du Figaro magazine, l'intellectuel libéral Guy Sorman déclare que le jour où les riches paieront moins, les pauvres vivront mieux. L'économiste Pascal Salin va plus loin, si tant est qu'il est possible d'aller plus loin, en imaginant, lui, la suppression de l'impôt progressif et des droits de succession. Même à gauche, le poids fiscal interroge et en déstabilise certains, dont le président Mitterrand lui-même, oui, qui après quelques mois après le tournant de la rigueur en septembre 83, indique dans l'émission L'Enjeu, trop d'impôts, pas d'impôts, il faut revenir à des chiffres raisonnables. En avril 1986, porté par la gronde antifiscale et la déception des classes les plus fragiles face à la crise, le Parlement passe à droite. Le Parti communiste rassemble moins de 10% des voix, le PS dépasse à peine les 31%, alors que l'Union RPR-UDF remporte 40% des sièges. La France connaît alors sa première cohabitation. Jacques Chirac redevient Premier ministre et nomme Édouard Balladur au ministère des Finances et de la Privatisation, aidé dans cette tâche par Alain Juppé, nommé au budget. Et c'est lui qui annonce, dès le 16 avril 86, la fin de l'impôt sur les grandes fortunes.
Et puis, il y a donc la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, est-ce n'est pas une mesure plus symbolique qu'économique, si je puis dire?
On pourrait dire qu'elle est symbolique, puisque c'est vrai que le coût en est relativement limité, moins de 4 milliards, à peu près 3 milliards et demi, car nous maintenons la taxation sur les bons anonymes. Mais il faut voir que cette mesure, qui s'ajoute à beaucoup d'autres formes de taxation du capital en France, les droits de succession qui ont été considérablement augmentés, les impôts locaux, etc., cette mesure avait un effet très pervers, cet impôt avait un effet très négatif sur l'investissement immobilier notamment. Et voilà pourquoi, là aussi, nous annonçons sa suppression au 1er janvier avec la mesure que vous avez d'ailleurs signalée et qui va avec, c'est-à-dire une exonération de l'impôt sur le revenu pour les contribuables modestes d'un montant au moins équivalent.
La promesse est respectée. Dès les premières semaines du retour au pouvoir de la droite, le gouvernement de Jacques Chirac fait voter une série de mesures qui diminuent la pression fiscale, notamment sur les plus fortunés. Pourtant, dans le même temps, la pauvreté s'intensifie et revêt désormais plusieurs visages. Le succès et l'impact du lancement des Restos du Cœur est un révélateur de ce basculement d'une part de la population dans la grande pauvreté. En 1987, un rapport du Conseil économique et social indique que la France compte près de 2,5 millions de personnes ayant des ressources insuffisantes pour vivre, 1 million de chômeurs non indemnisés, 400 000 personnes sans couverture sociale et pas loin du même nombre pour ce qui concerne les sans-abri. Pour l'instant, ce sont les municipalités qui innovent et qui imaginent des solutions d'entraide envers les plus démunis. En 1987, les députés socialistes déposent une proposition de loi pour la création d'un revenu minimum d'insertion. Idée que le président Mitterrand reprend dans sa lettre à tous les Français quand il déclare « Peu importe le nom qui lui sera donné, revenu minimum d'insertion, revenu minimum garanti. » Non, l'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. Comment financer? Poursuit le président, en grande partie par le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. La diminution des inégalités et la solidarité de tous devient l'un des thèmes de l'élection présidentielle de 88, durant laquelle s'affrontent le Premier ministre Jacques Chirac et le président François Mitterrand. Le 8 mai 1988, le président sortant remporte l'élection haut la main. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il perdu? Selon les confidences de ses proches, il pense lui-même que c'est la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes qui est la principale raison de sa défaite. Ce que confirme quelques semaines plus tard l'ancien ministre délégué au budget Alain Juppé, qui parle d'erreur. Oui. Au même moment, Michel Rocard entre à Matignon. Et c'est lui qui a la charge de la création du RMI, dispositif intimement lié au rétablissement de l'impôt sur les fortunes, comme il l'explique à la tribune de l'Assemblée.
Le financement du revenu minimum d'insertion sera assuré pour partie par le rétablissement d'un impôt sur la fortune.
Il faut ici lever tout équivoque. L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. C'est pourquoi, selon nous, le principal problème posé, mais il est très épineux, concerne non pas le principe de l'impôt, mais la définition du meilleur équilibre entre la solidarité nécessaire et la pertinence économique. C'est une simple question de bon sens. À l'heure où s'ouvrent nos frontières, une imposition trop forte inciterait à la fuite des capitaux, conduirait à ce que le potentiel d'investissement du pays aille irriguer les entreprises de nos concurrents, de préférence aux nôtres, en même temps que cela pourrait décourager les activités qu'il nous faut stimuler.
Le 1er décembre 1988, la loi qui institue le RMI est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Seul le principe de son financement a fait l'objet de passes d'armes entre députés. Comme au temps de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est la question de l'assiette de l'imposition qui est au centre des débats. Michel Rocard joue la carte des négociations en cherchant un consensus auprès du patronat. Au final, l'ISF reprend en partie les caractéristiques de l'impôt sur les grandes fortunes. Les biens professionnels, dont la liste a été rallongée, restent exonérés. Mais il y a un élément nouveau, l'idée d'un plafonnement. Autrement dit, le total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ne pourra être supérieur à 75% des revenus imposables. Un petit bouclier. Depuis sa mise en place, cette mesure est critiquée par une partie des économistes et des sociologues comme Monique Pinceau-Charlot, par exemple, qui met en évidence le fossé entre revenus imposables et revenus réels des plus fortunés, notamment grâce à l'optimisation fiscale qui permet de cacher une partie de ses avoirs. Effectivement, chaque année depuis la création de l'ISF, on découvre dans la presse les grandes fortunes qui ont réussi à échapper à l'impôt. En 1997, le Canard enchaîné révèle que François Pinault est de ceux-là. Comment? Eh bien grâce à une astuce fiscale tout à fait légale qui consiste à emprunter des millions pour acheter des actions de son propre groupe, ce qui permet d'augmenter son patrimoine professionnel et de réduire celui sur lequel est calculé l'ISF. L'affaire fait grand bruit, mais la polémique s'estompe car, répétons-le, ce n'est pas illégal. En juin 2016. Le journal satirique diffuse la liste des plus grands miraculés de l'ISF sur laquelle figurent les 50 contribuables français les plus riches qui, en 2015, n'ont pas ou peu payé d'impôts sur leur fortune. Il s'agit d'optimisation fiscale, oui, mais à sens unique. Car quand on sait que les 10% de Français les plus riches possèdent 60% du patrimoine total des Français, eh bien nous dirons que c'est le contribuable qui optimise, pas l'État. We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Last weekend, he was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed, I clean it up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said.
Sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune. Notre invité, Thomas Porcher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en économie et membre depuis 2016 des économistes atterrés. Vous avez écrit le traité d'économie hérétique chez Fayard en mars dernier et vous avez également fondé le mouvement Place Publique avec l'essayiste Raphaël Glucksmann et la militante écologiste Claire Nouvian, entre autres. À ce propos, qui sont les économistes atterrés? Alors, c'est une association d'intellectuels. Je crois qu'il n'y a pas que des économistes, hein, mais aussi de...
Si, il n'y a que des économistes. Enseignants-chercheurs, donc des gens qui ont un doctorat d'économie, hein, donc bon. Des vrais économistes.
Et vous n'avez pas d'analyste politique autour de vous, c'est
non, non, c'est des économistes qui ont fondé ce mouvement en 2011 suite au choix de la zone euro de rentrer dans l'austérité. Et là, ils avaient écrit une tribune, Henri Stardignac, André Orléans, à l'époque, Benjamin Coria, avait écrit une tribune où ils disaient que voilà, ils trouvaient qu'ils étaient atterrés par la politique menée par la zone euro. Et d'ailleurs, ça s'est vu, hein, puisque la croissance a été très faible et beaucoup de pays n'ont pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. Et donc, ça a commencé sur une tribune, puis un livre, puis une association, et voilà, avec des gens qui ont rejoint cette association, dont moi en 2016.
Et votre objectif, c'est de faire comprendre, si telle est la vérité, que ce chemin des rigueurs budgétaires crée du malaise social, des difficultés sociales, que ça ne booste pas la croissance, bref, que c'est pas le bon chemin. C'est ça votre but?
Exactement, c'est d'expliquer ça. Exactement. Mmh. Et puis de proposer aussi d'autres voies, de dire qu'en fait, en économie, il n'y a pas qu'une seule voie. voie. Il y a des alternatives, il n'y a pas qu'une seule voie, comme disait Margaret Thatcher, ou Emmanuel Macron disait l'autre politique est un mirage. Non, en économie, vous avez plusieurs avenirs possibles, et il faut que ces avenirs soient débattus sur un pied d'égalité. Il n'y a pas qu'une seule voie, et les économistes atterrés proposent d'autres voies, des propositions pour changer l'Europe, pour avoir une autre économie, en réalité. Voilà, que celle que nous vivons depuis une trentaine d'années en France et aussi dans d'autres pays d'Europe et même du monde.
Alors selon vous, c'est quoi le... Quels sont les chemins à suivre? Quel serait le chemin à suivre qui serait une politique alternative à celle de la zone euro?
Ben vous regardez la zone euro, quand vous comparez la zone euro et les États-Unis. Les États-Unis sont sortis de la crise, ont fait une politique de relance beaucoup plus forte en point de PIB que la zone euro. Ils ont mis 3 ans à retrouver leur niveau de richesse d'avant-crise, c'est-à-dire le niveau de richesse de 2007. Ils ont mis 3-4 ans à le retrouver. La zone euro a mis 8 ans, et vous avez toujours aujourd'hui la Grèce, le Portugal, l'Espagne, qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. Et vous avez des régions, même en France, les Hauts-de-France et le Grand Est, qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de richesse d'avant-crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui naît dans le Grand Nord est plus pauvre qu'il y a une dizaine d'années. Mmh. C'est hallucinant. Donc, clairement, la politique de la zone euro consistant à réduire trop rapidement les déficits, alors qu'on était dans une période de crise, a été un échec. Et d'ailleurs, cet échec a été reconnu par tout le monde, y compris par Emmanuel Macron quand il était candidat, dans cette interview qu'il avait fait aux Échos où il présentait son programme. La première question était sur la zone euro. Il reconnaissait qu'il y avait une réduction des déficits qui avait été beaucoup trop rapide. Le problème, c'est que pourquoi il continue dans cette voie-là? C'est une vraie question. Mais il reconnaissait en tous les cas que l'erreur avait été faite. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un consensus sur le fait qu'on a réduit trop rapidement les déficits. On a pratiqué de l'austérité à un moment où on aurait dû faire une politique contracyclique, c'est-à-dire de relance face à la crise qui vient des États-Unis, qui s'est transformée en crise de la zone euro.
Mais quel type de relance? Une relance à keynésienne, à l'ancienne, par la consommation? Ou est-ce que c'est possible aujourd'hui?
Voilà, la relance, alors déjà, il faut soutenir l'activité. Donc, effectivement, en période de crise, il fallait soutenir l'activité. Donc, pour soutenir l'activité, on peut faire une relance, si vous voulez, comme vous dites, à l'ancienne de keynésienne. Mais aujourd'hui, la relance, c'est aussi de l'investissement dans des secteurs d'avenir. La transition énergétique, voilà, a besoin d'argent. Le secteur privé ne veut pas y aller ou n'y va pas suffisamment. Hein. Je rappelle que l'ensemble des pays européens n'ont pas respecté l'accord de la COP21 qu'ils ont signé, y compris la France. Donc voilà, là, il y a des investissements publics à faire, mais aussi des investissements dans les services publics. Vous avez aujourd'hui beaucoup de services publics, des hôpitaux qui se plaignent de ne plus avoir de moyens, des écoles qui se plaignent de ne pas avoir assez de moyens et pas assez d'enseignants. Donc là, vous avez un investissement qui peut être fait, public, et pour des choses qui ne sont pas délocalisables, l'éducation, la santé, c'est pas délocalisable, hein, on peut pas aller là. Donc vous voyez, donc là c'est un investissement qui créerait de l'emploi et qui pourrait relancer l'économie. Donc il y a des secteurs d'avenir ou dans le service public où on peut faire des investissements qui sont assez rentables.
La croissance verte, c'est un oxymore pour vous, c'est un chemin à prendre, la croissance verte?
La croissance verte, ça dépend ce que l'on met dedans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, on a besoin d'une forte croissance pour le coup, puisqu'on a des objectifs européens de 20% d'énergie renouvelable d'ici à 2020, 30% à 2030. Ils ne seront pas tenus si on regarde les prévisions. Donc là, la croissance économique, dans ce domaine-là, on en a besoin. Maintenant, parler de croissance verte, ça consiste à verdir une croissance économique dont on voit les limites, puisque finalement, quand vous regardez les courbes aujourd'hui, vous avez une courbe de la croissance qui augmente et vous avez une courbe qui est corrélée des émissions de CO2, c'est qu'il va falloir un petit peu, à un moment, se poser la question de la finitude des ressources.
Bien sûr. Alors, on va revenir à nos moutons, si je puis dire, qui sont pas très éloignés de ce qu'on vient de dire, d'ailleurs. L'impôt sur la fortune. En 1982, quand le gouvernement socialiste décide de mettre en place cet impôt, qui deviendra, rappelons-le, en 88, l'ISF, est-ce que c'est une invention française? Spécificité française, ou est-ce que ça existe ailleurs?
Non, ça existe. Même encore aujourd'hui, il y a un ISF. L'Espagne l'avait supprimé et l'a remis. Il me semble qu'en Hollande, il y a aussi une forme d'ISF. Vous aviez au début une taxation sur les hauts patrimoines qui portaient des noms différents, mais pratiquement dans tous les pays riches, y compris aux États-Unis, il y avait une taxation très forte des hauts patrimoines. Et puis après, le tournant des années 80, capitalisme plutôt libéral, type Thatcher, Reagan, là vous avez la fiscalité qui a baissé pour tout le monde et surtout pour les plus riches. Et on voit le résultat, partout cette fiscalité a baissé, où les transferts, même les prestations sociales et les transferts ont baissé, vous avez eu des inégalités qui ont augmenté très fortement. La France a ces inégalités qui ont augmenté, mais moins fortement que ces pays-là, justement parce qu'elle a conservé une fiscalité un peu plus forte en moyenne que ses voisins européens. Donc non, c'est pas quelque chose de spécifique à la France. Et encore aujourd'hui, il y a peut-être moins de pays qui l'ont, mais il y avait encore quelques pays qui l'avaient. Et quoi qu'il en soit, encore une fois, on n'est pas obligé de toujours copier les autres pays. On peut avoir à un moment son propre style. Hein. On a le droit aussi. Hein. Parce que moi, j'ai évolué dans un monde. J'ai fait mes études quand j'étais jeune. Il fallait qu'on soit tous anglais. Après, américain. Maintenant, il faut être allemand, suédois. Il ne faut jamais être français. Donc là, le rendement de l'ISF en France était un rendement quand même. On était à 4-5 milliards cette année s'il n'y avait pas eu de réforme. Et c'est un rendement qui a augmenté d'année en année.
Oui,
donc quelque part, on récupérait.
Oui,
on récupérait les sommes. Et la fuite qui a été dit dans le reportage, qui est assez intéressante. Parce qu'on voit qu'il y a un discours monocorde depuis 30 ans. Cette fuite des gens, elle est chiffrée, cette fuite. Quand vous partez, quand vous quittez, vous ne voulez surtout plus payer les impôts. Donc vous allez vous identifier au centre des impôts en disant je pars, je ne veux plus payer l'ISF. C'est chiffré. Il y a 800 personnes qui partent par an. 800.
Mm-hmm.
Il y en a 300 qui reviennent. 300 quand même qui reviennent. Donc ça fait 500 par an qui partent. D'accord? 500 sur 340 000 ménages qui paye l'ISF, et chaque année de plus en plus de ménages, puisque l'immobilier augmente et les revenus financiers font que les gens, quand vous avez des revenus financiers, ça fait des petits, donc ça crée de l'argent. Donc vous avez le nombre de contribuables qui augmente et vous avez 500 personnes qui partent. Ce chiffre a été estimé sur 10 ans par Bercy. Si on prend aujourd'hui, le chiffre avait été chiffré entre 2002 et 2012 à 170 millions de pertes. 170 millions de pertes par an. L'impôt rapportait 4 milliards. Aujourd'hui, en faisant une fourchette large, on serait à 250-300 millions de pertes par an sur un ISF qui rapporte 4 milliards. Donc aujourd'hui, on réforme l'ISF et on accepte de perdre 3,5-4 milliards pour une perte de 200 millions. C'est ridicule. Donc cette fuite, elle n'était pas du tout... Il y avait une forme des gens qui partaient, 0,2% des assujettis, c'est tout. Le reste, ils payaient leurs impôts, ils restaient.
Alors, si j'essaie de comprendre, le produit comptable de l'ISF, produit comptable, il n'est pas énorme, je veux dire.
Là, 4 milliards, compris 5 milliards, la partie de 3,5 milliards. Mais 5 milliards, c'est 5 milliards.
C'est pas rien.
Si on regarde le budget de l'éducation, c'est important.
Ouais. Ça n'est pas rien, effectivement. Ouais. Mais est-ce que le problème...
Le plan hôpital, c'est pas 5 milliards. Enfin, voilà.
Bon, d'accord. C'est pour ça que si, d'un point de vue comptable, on estime que ça rapporte et qu'il faut surtout pas s'en passer, mais on peut aussi considérer que ça rapporte pas tant que ça, et que la mesure, elle est très politique. Est-ce que c'est une mesure politique avant d'être une mesure fiscale, l'ISF? Est-ce que c'est un totem identitaire de la gauche?
Je pense qu'il faut regarder l'évolution des patrimoines. Là, on parle des 1% les plus riches. C'est ça, ceux qui payaient l'ISF, c'était les 1% les plus riches. Ils détiennent quoi comme patrimoine? Ils détiennent 25% du patrimoine français. C'est-à-dire de l'immobilier, des placements financiers. 25% les 1%. Ce patrimoine a augmenté ces 30 dernières années. Les 1% les plus riches ont un patrimoine et même un revenu qui a augmenté plus vite que le reste de la population. Ça, c'est important à dire, d'accord? Malgré l'existence de l'ISF. Donc, ils ne se sont pas appauvris. Ça, c'est une chose. Cet impôt avait un rendement. Il rapportait de l'argent. Donc, pourquoi s'en passer? Et il n'y avait pas cette fuite qui nous a été dit, parce que cette fuite n'a jamais été chiffrée. Les gens, ils disent que non, la fuite, c'est 500 par an. Donc, pourquoi s'en passer? C'est la vraie question que je me pose. Alors même qu'aujourd'hui, encore dans les années 80, quand on entend les conversations dans les années 80, on peut se dire qu'à l'époque, ils pouvaient y croire. Parce que tout le monde baissait la fiscalité des plus riches en se disant que ça allait relancer l'économie. Mais aujourd'hui, on a 30 ans. Pourquoi on ne tire pas un bilan? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Les 1% sont devenus extrêmement riches. Aux États-Unis, extrêmement riches. Il y a eu des inégalités qui ont augmenté très fortement. Et Trump, quelqu'un comme Trump, a fait son élection sur les classes pauvres, ceux qui n'ont pas profité de ces 30 dernières années, pour passer au pouvoir. Donc les deux pays qui ont le plus baissé la fiscalité sur les plus riches, qui ont les inégalités qui ont le plus augmenté, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont comme par hasard le capitalisme Thatcher-Reagan, c'est politiquement, ça donnait quoi? Trump-Brexit. Donc pourquoi on doit s'empresser à rejoindre cette dynamique qui est mortifère d'un point de vue politique? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, la suppression de l'ISF, on n'est pas dans les mêmes conditions qu'en 80, 85, 90, où là les gens pouvaient dire oui, bon, peut-être que ça va relancer l'investissement. On connaît, on a le bilan,
retour
d'expérience. Alors pourquoi on ne tient pas compte de ce retour d'expérience? Pourquoi on s'empresse à rattraper ces expériences qui ont été désastreuses? Je me pose la question.
Bien, on va écouter un reportage d'Anel Verzo que je vous présente, qui vient d'arriver dans le studio, qui est notre reporter.
Bonjour.
Et nous allons réécouter votre reportage, Anel, que nous avions diffusé pour la première fois dans notre émission le 19 septembre 2017. Alors vous étiez allé à la fête de l'UMA, recueillir les témoignages sur la suppression alors annoncée de l'ISF et son remplacement par l'IFI, un impôt sur la fortune immobilière uniquement.
Voilà, et vous allez l'entendre, les témoignages font tout à fait écho à ceux que nous entendons en ce moment même dans les cortèges des Gilets jaunes.
Eh bien, écoutons.
Non à la loi travail XXL, oui au progrès social.
Papeton d'aubergine, soupe de poisson, gardenne de taureau, civet de porcelet. Voilà. Tu m'interroges sur, enfin, je vous interroge sur la suppression de l'ISF.
Comme d'habitude, c'est toujours les riches qui profitent du système. Nous, il faut qu'on paye. On arrive déjà difficilement à vivre, que ce soit les actifs comme les retraités. Et on doit accepter que nos dirigeants prennent l'initiative de supprimer des impôts sur la grande fortune. Solidarité, ça veut bien dire solidarité. Ça veut dire que tout le monde doit payer des impôts.
Sur le site d'En Marche, donc du site du président de la République, il est écrit que c'est pour soutenir ceux qui prennent des risques.
C'est bien. Quel risque ?
Ils prennent des risques.
Quel risque ? Quel risque ? Normalement, l'argent doit servir à l'investissement. Il a investi où ? On prend l'argent, on l'investit, oui, dans des actions en bourse, dans des... Ça rapporte quoi ? Sachez quand même que nous, on trouve ça dégueulasse, mais le mot est léger.
Comment vous appelez, monsieur ?
Denis. J'étais électricien avant. On n'est plus dans le système d'entraide d'aider les gens qui sont les plus défavorisés. On est en train de favoriser ceux qui sont les plus riches. Voilà.
Oui, allez-y, vous avez du travail.
Ouais, exactement.
Je sais pas si vous payez l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.
On est étudiants, alors pas vraiment. On n'est pas vraiment concernés, du coup.
Concernés par les APL.
Ouais, voilà.
Quand on regarde l'impôt, qui paye l'impôt, combien il y a de fraude fiscale.
Qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Dominique Maugard, retraité cheminot.
Et vous, madame?
Elisabeth Maugard, moi je suis une jeune retraitée. J'ai travaillé à la sécurité sociale.
Et qui fait la fraude fiscale ?
C'est 60 à 80 milliards d'euros qui manquent à la France avec l'évasion fiscale.
Oui, donc, et ça, ce n'est pas les ouvriers qui font la fraude fiscale. Hein. Ça, on est en marche arrière.
C'est pas en marche, c'est en marche arrière.
C'est en marche arrière.
Ce qui est vache dans cette affaire, c'est qu'on nous présente qu'il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Donc il faut des mesures. Et en même temps, il va réduire l'impôt sur la fortune. Et il nous dit qu'il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Il n'y a pas une contradiction là ? Donc il va nous faire payer à nous pour donner plus de cadeaux aux financiers. Le fort du premier, mais il est là. On utilise le déficit pour culpabiliser les gens, mais pour désengager le capital du financement du collectif, de l'humain en France, dans sa diversité. Parce que l'argent de l'impôt, elle sert quand même à investir pour les collectivités locales, pour la santé, pour les services publics. Donc elle a une dimension sociale, l'impôt. C'est grave de penser que l'impôt, c'est quelque chose de moche. L'impôt doit servir au progrès social. Ou c'est pas normal, c'est que les riches payent de moins en moins d'impôts et les travailleurs, ils en payent de plus en plus.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas Porcher? Je rappelle que c'est un reportage réalisé à la fête de l'UMA, où j'imagine, Anaël, on ne trouve pas beaucoup de gens favorables à la suppression de l'ISF. Mais il y a une argumentation, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il y a une très bonne argumentation. C'est la première personne qu'on interroge dit une chose très intéressante. Quand Emmanuel Macron a supprimé l'impôt sur la fortune sur les placements financiers, il l'a supprimé pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, voilà, et maintenant ces gens-là, ils doivent investir, donc on ne doit plus taxer, voilà, et ils vont investir leur argent. C'est ce qu'il dit, en France. Mais en fait, ce que dit dans le premier reportage, ils achètent des actions, mais il a tout à fait raison. S'il voulait vraiment, Emmanuel Macron, que l'ISF serve justement à investir avec cette réforme, il aurait juste pu le notifier, qu'on fasse la preuve qu'on a vraiment investi dans une entreprise pour être exonéré de l'ISF. C'est pas le cas. Donc là, c'est un pari qui a été fait. Or, si vous avez 50 millions de fortune, 80% de votre fortune, c'est des placements financiers, hein. C'est pas de l'immobilier, là, c'est des placements. Donc là, vous êtes exonéré, vous récupérez plein d'argent, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Vous allez acheter d'autres actions. Vous allez acheter des actions en bourse. 99% des actions en bourse que vous achetez se font sur le marché secondaire. C'est-à-dire que l'entreprise n'en voit pas la couleur. C'est la personne à qui vous l'achetez qui, elle, fait une plus-value ou une moins-value, etc. Donc, il ne faut pas confondre investissement et spéculation. Or là, rien n'a été fait pour empêcher la spéculation et favoriser l'investissement. On part d'un pari que les gens vont comme ça investir dans des PME du coin avec l'argent qu'ils vont récupérer. Alors peut-être certains vont le faire, hein, quelques start-upers, mais je crois pas que majoritairement on va faire ça, on va faire de l'optimisation, de gains, etc. En les mettant sur les marchés financiers. Ça c'est la première chose. Donc ils ont raison là-dessus. Ils ont entièrement raison. L'ISF ne sert pas, la suppression, la réforme de l'ISF ne va pas, dans la majorité des cas, servir à l'investissement. Donc c'est intéressant. Et puis après, il y a cette idée, et on l'a bien vu, et ça rejoint la colère des Gilets jaunes, c'est que les réformes fiscales qui ont été faites par Macron, elles touchent quoi? La réforme de l'ISF, la réforme sur les revenus financiers, la flat tax, enfin c'est les gens qui ont des revenus financiers qui profitent aux 10% les plus riches, et la baisse d'impôts sur les sociétés, qui s'arrangeaient déjà pour les grosses sociétés à faire de l'optimisation fiscale, mais là, elles paieront encore moins d'impôts. Et de l'autre côté, on augmente la fiscalité sur les classes moyennes, avec la taxe sur les carburants, avec les cigarettes, etc. Donc, de plus en plus, c'est pas normal et c'est pas acceptable que le café du coin en bas paye les impôts que Starbucks ne veut pas payer, ou que le restaurateur paye les impôts que McDo ne veut pas payer, ou que la librairie paye les impôts qu'Amazon ne paye pas. Donc, il y a un vrai problème de justice fiscale qu'il faut résoudre, et c'est pas en baissant la fiscalité sur les plus riches.
Thomas Porcher, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté les Beatles dans leur chanson la moins glorieuse qui soit, s'appelle Taxman. C'est une chanson un peu poujadiste contre les impôts. Mais comme c'est les Beatles, c'est que vous entendrez le pizzicato de George Harrison qui est magnifique. On ne va pas s'en passer. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Porcher, faut-il en France une grande réforme fiscale qu'on attendait d'ailleurs avec François Hollande, qui est un fiscaliste, hein, il n'y a pas eu cette grande réforme fiscale. Est-ce que ça passe, est-ce que plus de justice sociale passe par là, notamment?
Oui, oui. Enfin, il faut dire les choses, c'est dans les pays de l'OCDE, quand on regarde, si la fiscalité n'avait pas bougé les 30 dernières années, les transferts n'avaient pas bougé, et ben il y aurait 40% en moins d'inégalités. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est pas le cas de la France, comme j'ai dit, parce que la fiscalité est un peu plus lourde, donc on a moins d'inégalités que dans nos pays voisins. Mais il y a un lien direct entre impôts et lutte contre les inégalités. Donc, l'impôt est important. Maintenant, il faut que l'impôt soit juste. Et aujourd'hui, le système ne fonctionne pas bien, parce que c'est pas normal que des PME aient une pression fiscale supérieure à celle du 440. Ce n'est pas normal, parce que le 440 peut faire de l'optimisation fiscale. Et c'est pas normal que les classes moyennes aient une pression fiscale plus forte que les très très hauts revenus. Donc là, il y a une vraie question pour refonder la fiscalité pour qu'elle soit plus progressive et donc plus juste. Aujourd'hui, on remplace de plus en plus des impôts progressifs par des impôts qu'on appelle régressifs, c'est-à-dire taxes sur la consommation, TVA, etc., qui pèsent plus cher, qui sont plus coûteux pour les ménages les plus modestes. Donc il y a une vraie question à avoir sur la fiscalité, parce que tant que cette fiscalité est injuste, le consentement à l'impôt est remis en cause et par ça, tout le monde. Ça, c'est un vrai problème.
Bien sûr, c'est un problème. Ce que disent les Gilets jaunes est aussi adossé à cette injustice fiscale.
Oui, n'oublions pas que c'est parti avec la taxe sur le gazole. Vous voyez, qui peut être, enfin, on appelait la taxe carbone, etc. On a dit que ça finançait la lutte contre la transition énergétique, ce qui n'est pas complètement vrai, mais la réalité, c'est que quand vous êtes un smicard, vous vivez pas dans les centres-villes, etc., il vous reste 16 euros par mois pour le loisir. C'est à peu près ça. 16 euros par mois. 32 euros par mois, il vous reste pour le loisir. La hausse de la fiscalité sur le gazole, ou la hausse des prix des carburants global sur les deux dernières années, a mangé la moitié de ces 32
euros. De ce reste à vivre.
Voilà, de ce reste à vivre. Ça veut dire qu'il vous reste 16 euros seulement maintenant pour vivre. Donc vous comprenez que les gens soient très sensibles à la hausse de la fiscalité sur les carburants. Donc il y a un vrai problème. Je pense que la classe moyenne se sent aujourd'hui plus étouffée sur la fiscalité quand on voit qu'on fait des cadeaux à des gens qui ont beaucoup d'argent et de moyens.
Merci infiniment, merci. Thomas Porcher, pour tous ces éclairages d'économistes autour de cette question de l'impôt sur la fortune. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ISF donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et merci à Roland Mahé qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jean Bulot, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Philippe Pirard et David Mijot, réalisation Jérôme Boulet et Coy Nguyen.